Moi, je suis une personne full package, là. Je suis vraiment d'avis que pour créer un vrai impact, pour créer vraiment un message clair et cohérent, le visuel, la qualité aussi de l'univers qui ne passe pas par les mots nécessairement, est super importante et est au cœur de la réaction émotionnelle qu'on va aller chercher aussi chez nos clients, chez notre interlocuteur, chez les gens qui vont interagir avec nous. Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 29. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que malgré le fait qu'on soit au mois de mai et qu'il y ait de la neige dehors ici à Montréal du moins, vous gardez le moral. Je sais pas ce que l'année 2020 nous réserve encore comme surprise, mais oui, elle en a des belles en tout cas. Alors, aujourd'hui, un sujet qui me passionne réellement, c'est un sujet... c'est une des raisons pourquoi, en fait, j'ai commencé à travailler en communication. C'est une des choses qui m'a vraiment attirée dans le branding, c'est... le branding personnel aussi, et c'est tout ce qui est la création d'identité de marque, la création d'identité visuelle. Et comme je suis passée à travers le processus plusieurs fois, non seulement avec mes clients, avec des employeurs, mais aussi personnellement dans mon entreprise avec Aime ta marque, et je viens tout juste de terminer justement l'exercice, je me suis dit que ça vaudrait la peine de vous parler du processus de branding, processus de rebranding et de création d'identité visuelle quand on n'est pas justement nous-mêmes un graphiste ou quand on veut réfléchir à notre positionnement at large. C'est quelque chose que je travaille presque systématiquement avec mes clients parce que je suis d'accord que... Moi, je suis une personne full package, là. Je suis vraiment d'avis que pour créer un vrai impact, pour créer vraiment un message clair et cohérent, le visuel, la qualité aussi de l'univers qui ne passe pas par les mots nécessairement est super importante et est au cœur de la réaction émotionnelle qu'on va aller chercher aussi chez nos clients, chez notre interlocuteur, chez les gens qui vont interagir avec nous. Et bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Mais non, mais le contenu est beaucoup plus important que le contenant. » Et oui, le contenu est extrêmement important. Sans contenu, on n'a rien. Mais je pense que le contenant vaut la peine qu'on s'y penche aussi. Parce que la communication, c'est pas justement simplement les mots, c'est pas justement le verbal. Il y a vraiment... un travail qui peut être fait autant au niveau, je pense, de la présence physique de la personne dans une chambre, de la façon dont on prononce les mots, dont on s'habille, qui a un impact sur le positionnement et sur l'effet qu'on va avoir sur les autres. Alors aujourd'hui, je veux parler plus spécifiquement de branding en termes d'identité visuelle, en termes d'identité graphique et de tout le processus qui est derrière, dans le fond, la création d'un logo, la création d'un site web, quand on parle de justement, les images, les couleurs et tout ça. J'ai travaillé beaucoup avec différents types de graphistes, puis au fil du temps, je pense que ça me permet aussi de bien valoriser leur travail, puis de bien faire la distinction entre quelqu'un qui est professionnel dans son domaine et quelqu'un qui va tourner les coins ronds et va peut-être aller un petit peu trop vite sur... ce processus de branding. Et moi, quand je travaille avec des designers graphiques, autant pour mes clients que pour moi-même, je vais vraiment chercher les gens qui ont un souci non seulement du travail rendu, mais aussi de bien comprendre l'impact que leur identité visuelle va créer et pas juste se dire est-ce que c'est beau, est-ce que j'aime ça, puis est-ce que mon client aime ça? Puis ça, c'est un des grands dangers quand on engage un graphiste, c'est de pas avoir saisi son degré de professionnalisme à ce niveau-là, mais aussi son investissement dans le résultat qui va être créé. Bref, je vais parler un petit peu de ça aussi à travers la conversation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. J'aime toujours ça parler de ce processus-là. Comme je vous dis, c'est ce qui m'a mis le pied dans les communications, dans ma passion aussi pour le branding personnel. Parce que un des grands projets que j'ai fait quand j'avais commencé à travailler en entreprise, c'était le rebranding d'une compagnie qui avait une dizaine de bureaux à travers le Canada. Et ils avaient un logo, oui. Ils avaient des couleurs, oui, qui dataient d'il y a 25 ans. Et aussi, chaque bureau était comme né un peu organiquement dans chacune de ces villes-là. Et ils utilisaient tous leur matériel promotionnel. Ils utilisaient tous le logo à leur façon. Il n'y avait pas d'uniformité. Puis, naturellement, comme l'entreprise était en croissance, il fallait trouver une façon de rallier tout ça à une seule marque. Et ça a été un des plus beaux projets que j'ai fait parce que j'étais complètement nouvelle dans ce monde-là. J'ai travaillé avec une équipe de graphistes absolument extraordinaire. Et le résultat, après ça, d'avoir passé à travers ce long processus-là, qui a pris au moins une année dans le design, sans compter après ça, il faut faire l'implantation d'un brand et il faut aller parler à chacun. Il faut s'assurer que le brand est compris, acquis et qui va être appliqué de la bonne façon aussi. Donc, il y avait tout un exercice aussi de communication interne pour aller chercher le buy-in un peu de tous ces gens qui fonctionnaient jusqu'à présent super bien avec leur matériel. Et aussi les convaincre que ce changement de brand, même s'ils n'aimaient pas ça, même s'ils n'aimaient pas les couleurs, même s'ils pensaient quoi que ce soit à propos de cette marque-là, de cette nouvelle marque qu'ils allaient devoir représenter, eh bien, ça représentait très bien l'esprit de la compagnie. Donc, c'était tout un exercice de psychologie autour de la marque, de psychologie autour des humains et de comment ils s'associent à cette marque-là. Et bref, c'est quelque chose d'absolument fascinant de voir l'interaction entre justement du design et des valeurs et aussi les ambitions d'une entreprise. Donc pour moi, ça c'est vraiment le fondement de mon intérêt pour ce domaine-là. Alors, première chose que je voulais adresser, c'est quand est-ce que c'est nécessaire de se faire faire une image de marque ou justement une identité visuelle? Je vous avoue, quand j'ai commencé à me tamar, j'avais tout fait moi-même. J'avais fait mon site web, j'avais choisi mes couleurs, j'avais choisi ma typo, puis je m'étais mis à écrire des textes sur mon WordPress, ce que je suis très très fière quand même. Et à un certain point, peut-être genre 2 ou 3 mois après avoir commencé, je me disais, moi je veux amener ça quelque chose à... Je veux amener M ta marque à un niveau professionnel, je veux me faire respecter. Il y a beaucoup... J'ai commencé sur le tard, j'ai commencé en 2016, il y avait beaucoup de sites, beaucoup de blogs qui existaient depuis déjà plusieurs années, donc je me disais, comment est-ce que moi je vais me différencier comme blog si j'ai l'air amateur, puis si moi-même, dans mes couleurs, puis dans la façon que je me présente, c'est pas vraiment cohérent, puis ça fait un peu broche à foin, mettons. Fait que je pense que il y a plusieurs éléments de l'identité visuelle qui sont pas nécessaires. Comme par exemple, au début, moi, je n'ai pas fait faire de logo, même si ma graphiste m'a fait juste, tu sais, pendant longtemps, jusqu'à cette année, en fait, Aime ta marque, c'était Aime ta marque dans un petit rectangle, puis le T était en italique. Et puis, ça marchait absolument bien avec le reste du brand qu'elle m'avait fait, puis tout ça. Mais elle m'a jamais chargée pour avoir fait faire un logo. Ça, c'était ma graphiste. Mais dans le sens que j'essaie de dire en ce moment, c'est que je pense que l'identité visuelle d'un projet est importante d'être faite au niveau professionnel, mais il y a certains éléments, par contre, qu'on peut peut-être laisser faire ou aller chercher plus tard, comme par exemple un logo. Puis j'avais fait un épisode de podcast là-dessus, je vais le mettre en lien dans les commentaires, c'était les dépenses qu'on peut s'éviter quand on lance son entreprise. Donc, le logo, pas nécessaire. l'univers visuel, je pense que c'est important de le faire dès le début. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de faire ça en première instance? Non. Il y a un gros travail de réflexion qui doit être fait en amont avant qu'on aille même consulter une graphiste ou un graphiste pour travailler là-dessus. Et là, je vais parler un petit peu plus en détail de ce que je veux dire par là. Mais par exemple, dans mon cas où je me disais, bon, on est en 2020, je me lance à mon compte. Ça fait depuis 2016 que j'utilise plus ou moins la même identité visuelle, même si elle a évolué, puis j'ai pris confiance aussi pour faire évoluer ma marque à travers tout ça. Mais rendu en 2020, j'étais comme, OK, je veux un rebrand, je veux reskin, je veux changer l'univers de ce que je suis en train de communiquer, parce que j'avais aussi un besoin de changer mon positionnement. Parce qu'en 4 ans, j'ai évolué. Mon blog, qui était parti comme un blog collaboratif, maintenant c'était moi. Maintenant, j'offrais du coaching, alors qu'avant, je faisais beaucoup plus des cours en ligne. Donc, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'entreprise qui font que j'ai dû repenser toute ma mission, la façon dont je présentais mon message, et aussi où je voulais aller dans le futur, parce que je pense que c'est ça aussi le moteur d'un changement de marque, c'est est-ce que notre direction a changé, puis est-ce que notre public a changé aussi? Est-ce que notre message a changé? Et quand on se dit oui, ben je pense que là, c'est le moment d'aller réfléchir au positionnement at large, mais aussi, bon, quand il y a un changement de positionnement, de réfléchir à toutes les étapes, dont l'identité visuelle. Alors, juste, tu sais, pour en revenir un petit peu à mon rebrand de cette année, comme je l'ai mentionné, j'ai beaucoup évolué, bon, depuis la naissance de ma fille, depuis que j'ai lancé, justement, mes services de coaching, et aussi depuis que j'ai assumé certaines ambitions que j'avais pas nécessairement assumées jusqu'à présent, et que j'ai décidé, bon, à partir de maintenant, voici exactement la personne à qui je veux parler, qui est un petit peu plus upscale, qui connaît déjà la valeur de l'histoire, qui connaît déjà la valeur du branding. Et pour ça, je suis allée, bon, revoir ma graphiste des débuts parce que j'ai une super bonne relation avec elle, dans le sens elle comprend bien l'essence de Aime ta marque, et puis elle est là depuis le début, donc elle a vu l'évolution. Et là, je lui ai dit, bon, voici où est-ce que je m'en vais, voici un petit peu la mission, comment j'en parle aujourd'hui, et peux-tu m'aider à amener ça au prochain niveau? Et je trouve ça intéressant comme exercice, parce que ça te force à réfléchir non seulement à comment ton public te perçoit, comment ta communauté te perçoit, mais aussi quand tu dois communiquer ça, par exemple, à une graphiste, de voir où est-ce que ça bloque dans ta communication de ton message. Parce que si la personne ne comprend pas exactement ce que tu essaies de transmettre, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou qui n'a pas été cherché, ou qui n'a pas été approfondi. Bref, ça c'est juste un petit truc à garder en tête quand on fait affaire avec une graphiste. Maintenant, comme je disais un petit peu au début par rapport à cette entreprise dont j'avais fait le rebrand, c'est nécessaire aussi de mettre en place les attentes qu'on a par rapport à cette nouvelle marque. Donc, bon, dans mon cas, je suis une solopreneur, donc il y a personne qui a quelque chose à dire sur ce qui va sortir de mon brand, mais en général, dans une entreprise un peu plus grande ou quand il y a d'autres gens qui sont impliqués dans ce changement-là, c'est important quand même d'avoir le son de cloche, de préparer le terrain, de dire voici vers quoi on s'en va, mais de mettre en charge soit une personne ou un département, puis là je parle des communications, souvent ou des communications, même pas du marketing, moi je dirais vraiment c'est le département des coms qui devrait s'occuper du branding, et de faire confiance que cette personne comprend bien l'entreprise et est capable de la communiquer justement. Ensuite vient l'étape de choisir son designer. J'ai un article comment faire affaire avec un designer graphique, un guide pour débutants, je le mets en commentaire de cet épisode-là parce que je suis toujours, je dirais pas surprise, mais des fois un petit peu choquée. Puis là, bon, choquée, c'est un grand mot, là. Mais il y a beaucoup de différences de qualité que l'on retrouve sur le marché du design graphique en ce moment. Puis je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis un bout, j'avais organisé un événement avec la Société des designers graphiques du Québec qui s'appelait Date ton designer. Puis le but, c'était justement de mettre en contact des gens avec des designers et d'apprendre un petit peu plus c'est quoi le processus de design, c'est quoi les questions qu'un designer se pose quand il entame un travail professionnel comme ça, parce que c'est pas vrai que n'importe qui connaît un petit peu Photoshop, qui connaît un petit peu Canva, est capable de créer une identité visuelle, ou de créer une marque, ou de créer un logo, ou de créer un brand. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des gens qui ont fait des études là-dedans. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des années là-dedans. Puis, il y a aussi des gens qui ont travaillé pendant des années, mais qui ont pas nécessairement de formation. Je dis pas que c'est nécessaire d'avoir une formation, mais je pense que ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un processus réfléchi et qui va aller chercher toutes les subtilités du travail de designer. Parce que le travail de designer, c'est pas, encore une fois, de juste mettre des couleurs puis des typos ensemble. C'est de faire la réflexion de marque, de dire qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans l'industrie. Comment est-ce que mon client se positionne là-dedans? Donc, nous qui voulons faire un rebrand. Qu'est-ce que je peux lui apporter qui est différenciateur? Qu'est-ce que je peux lui apporter qui représente sa personnalité? Qu'est-ce que je peux apporter qui va parler au client cible? Et puis, faire toute cette réflexion-là pour ensuite le communiquer d'une façon visuelle. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cet œil-là et d'avoir cet esprit critique-là pour faire ce travail-là. C'est pourquoi choisir son designer graphique, c'est absolument essentiel d'être à l'écoute, mais aussi de voir avec qui on s'entend bien, qui est sur la même longueur d'onde que nous, qui va comprendre notre vision. Puis c'est ça, dans le fond, la plus-value d'un designer graphique de métier, c'est que il comprend la vision, il sait poser des questions, et puis il sait amener des propositions qui vont s'aligner avec ça. Puis quand on choisit son designer graphique, il faut aussi s'assurer de se demander « Est-ce que je lui fais confiance? » Et « Est-ce que je fais confiance que peut-être ce qu'elle va me présenter va me sortir hors de ma zone de confort, mais que c'est la meilleure chose pour ma marque à ce moment-ci? » Puis ça, je l'ai vu dans des entreprises qui voulaient pas nécessairement pousser trop loin leur changement d'identité, puis que ça devait prendre un petit peu de massage avant que ça rentre tranquillement dans les esprits, parce que on s'attache à nos marques, on s'attache à nos logos, on s'attache à nos façons de faire. Puis quand on arrive, puis bon, tu sais, on se fait faire un relooking, des fois on n'est pas confortable avec notre nouvelle coupe de cheveux ou avec nos nouvelles lunettes, ça nous prend du temps d'adaptation. Fait que c'est d'essayer de voir, tu sais, est-ce que tu fais confiance à la personne qui est en train de te relooker, justement? En fait, choisir un designer graphique, c'est comme choisir un coiffeur. Faut que tu saches que peu importe ce qu'il va faire, il le fait parce que ça va bien te faire. Bref, petit aparté. Donc, cet exercice de positionnement-là, des fois, le designer va le faire, mais c'est un exercice qui est essentiel. Puis les designers, souvent, avec qui j'ai travaillé, vont le faire jusqu'à un certain point, mais vont pas faire le travail nécessairement de fond qui va être de repenser la mission, repenser les valeurs, repenser aussi l'histoire qui est racontée. Puis ça, c'est notamment pourquoi j'aime m'associer avec des designers graphiques pour que, tu sais, je fasse ce travail-là en amont avec le client, puis eux, ensuite, ils peuvent traduire ce sur quoi on a travaillé. Parce que ce qui serait vraiment dommage, c'est d'entamer un rebrand, d'entamer un travail sur une identité visuelle qui peut prendre, comme je l'ai dit, plusieurs mois et qui va coûter quand même une somme substantielle selon la taille de l'entreprise, puis selon aussi, bon, l'agence avec qui vous faites affaire ou le designer avec qui vous faites affaire. Et donc, ça serait dommage de pas avoir fait le travail de fond avant de se lancer dans le travail un peu plus superficiel que je dirais, qui est le travail visuel. Donc le travail de fond est essentiel pour être sûr que c'est limpide, pour être sûr que là, on est vraiment en train de dire ce qu'on va dire pendant, disons, la prochaine année, 2 ans, 3 ans. Parce que bon, moi, je suis d'avis que juste rafraîchir un peu son identité de temps en temps, ça vaut la peine d'être fait. Donc, l'exercice de positionnement, un essentiel. Si c'est fait avec un professionnel, encore mieux. Ensuite, il y a toute la partie recherche. Bon, puis je veux juste redonner des exemples parce que je veux pas juste être dans le théorique, là. Mais comme par exemple, bon, avec M. Tamarck, pour mon nouveau brand en 2020, j'étais en coaching avec plusieurs personnes, puis à travers ce coaching-là, ben j'ai vraiment évolué, puis j'ai pris beaucoup de notes. En fait, le processus de repositionnement dans ma tête a duré peut-être 1 an. L'année où est-ce que j'étais en congé de maternité, l'année où est-ce que je me suis dit justement où est-ce que je veux amener M. Tamarck, c'est quoi mes ambitions pour ça, puis ça c'est des choses qu'on devrait se poser régulièrement, tu sais, se demander c'est quoi mon pourquoi, puis à force d'écrire du contenu sur Instagram, écrire du contenu sur LinkedIn, des choses comme ça, j'affinais mon message jusqu'à ce qu'un jour je comprenne, ok, c'est comme ça que je présente mon offre, c'est comme ça que je me présente, puis c'est ici le sweet spot où est-ce que je me dis, ça c'est moi, ça c'est M. Tamarck. Parce que bon, je sais pas si vous vous en rappelez, mais pendant un temps, je me disais, ah, je vais scinder Tatiana Saint-Louis, puis je vais scinder M. Tamarck, puis ça va être deux choses différentes, puis, tu sais, réfléchir à comment tout ça va être combiné, puis bon, toute mon activité qui était aussi beaucoup plus envers les entreprises, beaucoup plus axée communication marketing, puis après ça, tout ce qui est personal branding et positionnement, ben ça c'était beaucoup plus M. Tamarck avec le podcast, avec tout ça. Fait que comment est-ce que tous ces éléments-là, ils dansent ensemble, ils valsent ensemble? Puis comment est-ce que moi, je suis capable de faire du sens avec cette histoire professionnelle que je suis en train de créer, mais par rapport justement au succès que je veux créer pour moi-même, au type d'entreprise que je veux créer, puis au type de clients aussi que je veux attirer. Alors là, je me disais, bon, et aussi ce qui est intéressant dans ces exercices de positionnement-là, c'est que des fois, on réalise, dans le passé, on n'a pas assumé certaines parties de notre personnalité, comme par exemple, au début de M. Tamarck, c'était très... Bon, j'étais beaucoup dans le partage d'informations, j'étais beaucoup dans le partage de... bon, j'avais mes collaboratrices, j'avais tout ça, et puis, on dirait que plus le temps a avancé, plus j'ai assumé aussi d'être centrale dans mon brand, ce qui fait que là, si vous allez aller voir mon site qui évoluait, ben il y a beaucoup plus de photos de moi, je suis beaucoup plus au centre du message, je parle beaucoup plus au « je » et au « tu ». Et je trouve ça intéressant parce que bon, c'est assumé, puis c'est aussi assumé mon côté qui n'est pas pour tout le monde, mon côté unique, mon côté peut-être un peu plus... ben, high-end, puis je vais le dire comme ça, puis j'hésitais à le dire, mais en même temps, ça me fait penser à un autre article, celui où c'est Catherine Cormier qui écrivait, elle a écrit un article sur M. Tamarck qui s'appelle « Es-tu un magasin grande surface ou une boutique griffée? » Puis il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste de se demander « Est-ce que je vends des choses chères, mais à un petit nombre qui viennent chercher la qualité, ou est-ce que je préfère m'adresser au grand nombre puis être très abordable ou très accessible? » Puis moi, ben, je sciais souvent entre les deux parce que je me disais, ben, tu sais, moi, je suis plus de la philosophie boutique griffée, mais en même temps, je veux être populaire, je veux que les gens m'aiment, nanani, nanana. Puis là, bon, en faisant l'exercice de positionnement, je me suis dit, ça y est, je peux enfin me débarrasser de ces couches de « je veux que les gens m'aiment puis être populaire » parce que c'est pas ça que je veux faire avec M. Tamarck, puis c'est pas vers là que je veux m'en aller non plus avec mon modèle d'entreprise puis des choses comme ça. Bref, tout ça pour dire que ça nous fait découvrir beaucoup sur nous, puis de se pencher sur l'identité visuelle va venir ouvrir des portes en arrière qui ont peut-être pas été réglées, des boucles qui n'ont pas été bouclées non plus. Ce qui mène ensuite à tout le processus de recherche. Donc, Souvent, quand on fait affaire avec un designer graphique, ils vont nous demander premièrement le brief de création dans lequel on met sur papier, bon, notre mission, notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire avec le designer, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin de créer en termes de conception visuelle, est-ce que c'est un site web, est-ce que c'est parce que, bon, j'avais un client qui fêtait son 10e anniversaire d'existence, donc est-ce qu'il y a comme un genre de célébration, on veut rafraîchir l'image, puis pour quelle raison, de quoi a l'air le public cible, et qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on n'aime pas aussi, parce que veut pas, ça fait partie de ça. Et, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens dans des domaines un peu plus traditionnels qui vont décider, ben, moi, je veux pas être, disons, le conseiller financier beige et bleu foncé parce que tout le monde fait ça de même puis c'est rendu plate puis moi, je veux me différencier. Donc, toutes ces petites choses-là, le designer va vouloir le savoir puis ça va vraiment l'aider à s'enligner vers quelque chose qui va plus représenter l'essence de la personne. Bon, souvent, ce qu'on aime aussi, c'est les tableaux Pinterest. Et bon, moi, j'ai beaucoup de tableaux Pinterest qui sont pour mettre, pour aller enregistrer les typographies que j'aime, pour enregistrer les couleurs que j'aime. Puis bon, pendant mon processus de rebrand, j'avais commencé un tableau avec MTamark. Bon, c'était sur Pinterest, puis j'en ai fait un autre sur Behance. Je vais mettre le lien aussi, Behance, où est-ce qu'il y a beaucoup de travail très visuel et c'est très beau là, d'aller sur Behance quand on est tanné de Pinterest, justement. Et puis, là, ce qui est le fun, c'est de mettre des ambiances, c'est de mettre des choses qui nous parlent. Est-ce que, tu sais, des fois, c'est des illustrations. Moi, je me rappelle dans mon tableau Pinterest, il y avait des intérieurs, il y avait des décors, il y avait des salons, il y avait des chaises, il y avait des tissus. Parce que ça vient chercher cette vibe, ça vient chercher cette image que j'ai dans ma tête, mais que je peux pas vraiment exprimer en mots et que je peux juste exprimer avec toute cette synesthésie, toutes ces textures, toute cette luminosité ou des choses comme ça qui vont venir, ces styles qui vont venir appuyer un peu la vision que j'ai pour mon entreprise. Donc ça aussi, c'est une étape intéressante d'aller transformer cette vision-là. Puis là, bon, il y a beaucoup de gens qui font des vision boards ou des choses comme ça. Ça peut fonctionner aussi pour aider à la création d'un brand. Mais là, plus spécifiquement, tu sais, on parle vraiment de couleurs, d'ambiance, d'univers, d'émotions, de sensations. La documentation d'un rebrand. Bon, dans le sens que je l'avais montré un petit peu sur mon Instagram la dernière fois, une fois que la designer elle a suffisamment d'informations pour amener ses propositions, que ce soit une ou plusieurs, souvent il va y avoir des modifications qui vont être possibles. Puis moi, dans mon cas, il y a eu beaucoup de modifications, donc je remercie beaucoup ma designer de sa patience. Mais c'est important d'avoir, de ressortir de cet exercice-là un cahier de normes graphiques ou une charte graphique qui va un peu être le résultat ou la documentation de cet exercice de recherche. Si vous travaillez en entreprise puis vous devez faire un rebrand de votre entreprise, je vous conseille fortement de garder tout, y compris les mood boards, les inspirations, les briefs qui ont été envoyés et les différentes versions que les graphistes vont avoir présentées. Pourquoi? Récemment, je devais justement créer un brand complémentaire à une marque qui existait déjà. Et puis, cette marque avait pas gardé toute l'information sur le brand initial. Ce qui fait que quand on a dû faire le brand numéro 2, qui était comme un peu un petit frère du brand numéro 1, on n'avait pas toute la réflexion qui avait été faite autour de la psychologie, justement, du brand premier, puis qu'on a dû refaire à partir du début. Puis s'il y avait eu une documentation autour de, tu sais, voici ce qu'on cherche, voici ce dans quoi on... voici comment on se positionne et des choses comme ça, ça aurait été plus facile de décliner vers quelque chose d'autre. Bref, ça c'était juste un petit aparté, et pour mentionner aussi la documentation. Je vais terminer un petit peu cet épisode-là pour parler un peu de l'implantation. Parce que là, bon, c'est super le fun, moi, je trouve, de faire un rebrand, même si ça demande de l'énergie, puis ça demande du va-et-vient. Puis, peut-être une dernière petite chose à vous dire, parce que je veux pas passer 2 heures à parler de ça. C'est, assurez-vous, quand vous engagez votre designer, de lui faire confiance, mais aussi de faire confiance à votre instinct et à votre feeling quand vous voyez les résultats. Et dormez sur chacune de vos décisions, OK? C'est quasiment de l'ordre du méditatif parce que des fois, on voit quelque chose, on trouve ça objectivement beau, on trouve que c'est clean, on trouve que c'est... que ça nous parle ou que c'est professionnel, mais... Ah, c'est ma fille qui crie en background. Mais on a l'impression... Il y a quelque chose de pas correct. Il y a quelque chose qu'on, encore une fois, on la porterait pas, cette robe-là. Ou, tu sais, je suis pas sûre, genre, tu sais, c'est comme, c'est pas exactement moi. Il manque quelque chose. Puis quand on a ce petit sentiment-là d'inconfort, c'est vraiment important d'être capable de dire à notre designer qu'il y a ça qui se passe. Puis c'est pas parce qu'on donne le mandat à quelqu'un que ça veut dire que il peut pas s'adapter, puis que c'est pas toi, au bout du compte, qui est en charge de ton résultat. Donc, vraiment être... Puis demander à des gens, puis prendre le temps que ça prend pour approuver les maquettes, pour approuver le brand, parce que, bon, une fois que c'est fait, ce qui nous mène à l'implantation, parce qu'une fois que le brand est fait, c'est la longue étape qui commence, puis c'est l'étape de l'implantation du brand ou de l'intégration du brand dans vos outils de communication, surtout si vous avez déjà une entreprise qui roule, puis là, il faut aller changer les logos, il faut aller changer les factures, il faut aller changer les papeteries, il faut aller faire imprimer des cartes d'affaires, il faut aller changer toutes les images de couverture. Puis c'est là vraiment que le gros du travail commence, surtout s'il est question de, bon, changer un site web, puis que vous avez, bon... C'est, comme je disais en tout début, une entreprise avec des bureaux à travers le Canada, tu sais, c'est changer les signes sur les buildings, tu sais, c'est vraiment, c'est un gros processus. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir ça en tête quand on commence ce processus-là, de pas avoir peur du processus, mais d'être capable de s'investir dans ça sur le, disons, moyen terme, pour ne pas brusquer ce travail-là qui est essentiel et qui va tellement améliorer l'expérience, non seulement du client, mais aussi souvent, bon, des employés qui vont se reconnaître dans cette marque et aussi de soi-même qu'on va être capable de mieux communiquer ce qu'on a à communiquer en utilisant peut-être moins de mots, justement, puis en allant vraiment cibler la personne à qui on veut parler. Bon. Sur ce, ben, je vous invite à aller regarder mon site web, là, qui est prêt désormais. Il est désormais prêt. Je pense que je peux enfin le lancer au monde. Et vous allez pouvoir admirer mon nouveau brand, ma nouvelle identité visuelle, que je trouve absolument magnifique et dont je suis extrêmement fière. Donc, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. Parlez-moi de votre exercice de rebranding. Est-ce que vous avez envie d'en faire un? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous savez pas par où commencer? Vous savez que je peux vous aider avec ça. Je vous laisse les articles que j'ai mentionnés aujourd'hui en commentaire. Et puis, j'aime tout le temps aussi suggérer des graphistes de qualité avec qui j'ai fait affaire, parce que je pense que c'est important qu'on souligne leur travail et leur art. Parce que souvent, bon, c'est des métiers qui ont besoin d'être un petit peu plus valorisés qu'ils le sont. Je vous souhaite une super belle semaine, une super belle journée, puis on se parle très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!